Le feuilleton d'Ulysse par Muriel Exac, la mythologie grecque en 100 épisodes. Soixante-deuxième épisode, où l'on assiste à une terrible vengeance. Résumé de l'épisode précédent, quelque chose se trame au palais d'Agamemnon, la nourrice de son fils Oreste vient de faire discrètement s'échapper l'enfant de Mycène, sous les yeux d'Ulysse et d'Hermès. Cela faisait bien longtemps que le roi Agamemnon n'avait profité d'un pareil moment de détente. L'eau chaude dans laquelle il trempait exhalait un parfum de musc et de rose. Le chef de guerre n'avait pas souvent pensé à sa femme durant toutes ces années, trop occupée à asseoir son pouvoir sur les armées grecques. Mais son accueil charmant le mettait de bonne humeur. Lorsque Clytemnestre entra à nouveau dans la chambre, il l'accueillit avec un grand sourire et lui fit signe d'approcher. Clytemnestre portait une longue robe bleue. Elle ne se fit pas prier pour venir près de la baignoire. Mais dès qu'elle fut à côté de son mari, elle attrapa une sorte de filet dont elle l'enveloppa rapidement. Confiant, détendu, Agamemnon se laissa surprendre par ce geste sans réagir. « Mais que fais-tu, ma femme ? » s'étonna-t-il en se retrouvant tout ligoté. Le visage de Clytemnestre avait changé en un instant. L'épouse souriante s'était métamorphosée en une femme au regard dur. Elle lui répondit « Ce que je fais, chien, je te rends la monnaie de ta pièce. » Agamemnon ne comprenait pas. « Mais pourquoi m'insultes-tu? Que me reproches-tu » Clytemnestre serrait le filet qui ligotait Agamemnon en nouant les cordelettes autour de lui. « Ah, tu ne le sais pas. Eh bien, voilà un nœud pour mon premier mari, Tantale, que tu as tué pour prendre sa place sans me demander mon avis. Un nœud pour mon premier bébé, que j'avais eu avec lui et que tu as tué aussi pour ne pas t'embarrasser. Et puis encore un nœud pour notre fille, Iphigénie, que tu as voulu sacrifier en me mentant honteusement. Ma fille, que je sais vivante grâce à l'indulgence de la déesse Artémis, mais que je n'ai plus jamais revue. » Chaque parole prononcée par la reine évoquait une douleur terrible. Chaque parole s'accompagnait d'un nœud qui serrait davantage le filet autour du corps du roi. Agamemnon était livide. Il avait beau essayer de bouger bras et jambes, rien n'y faisait. Le piège s'était refermé sur lui. La haine de Clytemnestre débordait. Il lui restait un dernier reproche à formuler. « Tu ne m'as jamais aimé. Tu es venu me chercher. » M'arracher à ce premier foyer où je vivais heureuse, mais ensuite aussitôt parti à la guerre. Tu m'as trahi. Quand je pense que tu as pris la tête de cette armée pour venger ton frère Ménélas, abandonné par ma sœur Hélène. Comme elle a eu raison, ma sœur, de quitter un mari tout aussi orgueilleux et arrogant que toi. » Agamemnon suffoquait sous le flot de cette colère. Il jetait de tous côtés des coups d'œil affolés. Personne pour le sortir de là. Il avait lui-même donné l'ordre de ne déranger leur retrouvaille sous aucun prétexte. Et toutes ces femmes, ces esclaves troyennes dont tu t'es entiché, Harpina d'abord, la fille du prêtre d'Apollon, puis Briseis que tu as volée à Achille, et enfin Cassandre, cette putain que tu oses amener jusqu'à sous notre toit. » Agamemnon ne pouvait rien répondre. Pas un seul des reproches que sa femme lui adressait n'était injustifié, et il le savait mieux que personne. « Pardonne-moi si je t'ai fait souffrir, » commença-t-il. Mais Clytemnestre lui coupa la parole. « Aucun pardon pour un traître, un menteur, un parjure, qui ne respecte ni sa femme ni ses enfants. Es-tu allé saluer le petit Oreste en arrivant ? Hé, Électre, la douce sœur d'Iphigénie, te souviens-tu seulement de son existence ? Non. Tu ne mérites ni le nom de père, ni celui de mari. Tu n'es qu'une imposture. » À ces mots, Clytemnestre s'empara d'une hache et, comme une démente, se jeta sur Agamemnon. Pendant qu'elle commettait cet abominable crime, son amant Égiste avait envoyé chercher partout le petit Oreste. Ils avaient décidé de le tuer aussi cette nuit-là. Ainsi, ils seraient devenus les héritiers incontestés de la fortune et du trône d'Agamemnon. Mais personne dans le palais n'arrivait à mettre la main sur Oreste. On aurait dit qu'il s'était volatilisé. Après avoir commis sa terrible vengeance, Clytemnestre se dirigea vers la chambre où se trouvait Cassandre. La jeune femme savait que sa dernière heure était venue. Elle ne dormait pas, elle priait les dieux. Un instant, la résolution de Clytemnestre vacilla. Elle la trouva belle, prosternée, les cheveux répandus sur le sol autour d'elle. Elle se dit que cette femme ne méritait sans doute pas la mort, qu'Agamemnon avait dû lui imposer sa loi à elle aussi. Mais Cassandre ouvrit les yeux et un hurlement sortit de ses lèvres. Le mot qu'elle prononça décida la reine à poursuivre sa folie meurtrière, car ce fut le nom d'Agamemnon que Cassandre hurla. Elle venait d'avoir une vision du roi baignant dans son sang. « Puisque tu l'aimes, va donc le rejoindre !» gronda Clytemnestre, et elle lui planta un poignard dans le cœur, puis regagna sa chambre comme si rien ne s'était passé. Ulysse et Hermès entendirent les cris des serviteurs qui découvrirent le cadavre d'Agamemnon baignant dans son sang. Une énorme agitation gagna les couloirs du palais, et la nouvelle se répandit dans les rues de Mycène. Tout le monde accourut. Les visages éclairés par des torches étaient hagards, ils voulaient savoir, mais personne n'était capable de désigner l'assassin, et personne ne savait où le petit prince avait disparu. Seule une jeune fille sanglotait, désespérée. « Il y a d'abord eu ma sœur. Maintenant mon père disparaît, puis mon petit frère, tout s'écroule. Je n'ai plus de famille. » Électre ne croyait pas si bien dire. À suivre. Prochain épisode où l'on revoit un petit garçon devenu grand.